Souvenez-vous de cette histoire que vous avez sans doute entendue à l'école biblique, au catéchisme. Jacob fuit la vengeance de son frère et il s'arrête une nuit et fait un rêve étrange. Une échelle relie la terre au ciel, des anges la parcourent et une voix lui dit « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ton territoire, je ne t'abandonnerai pas. » Jacob se réveille et dit « Le Seigneur est présent en ce lieu et je ne le savais pas, que cet endroit est redoutable. » Dieu est présent dans ce temple, que ce temps est redoutable. Dieu est présent, nous le savons, mais le croyons-nous? Elles sont épaisses les murailles d'incrédulité, de futilité, d'habitude qui nous entourent. Je vous invite à vous lever. Seigneur, tu es là, au milieu de nous, et tu nous attends. Tu étais là avant que nous arrivions, et tu nous précéderas lorsque nous partirons. C'est nous qui ne sommes pas sûrs d'être là. Nous sommes trop distraits, trop occupés d'autres choses, trop méfiants, trop inquiets. Accorde-nous la grâce d'être là, tout simplement, accueillant, attentif, ouvert, sincère, fidèle. Ouvre nos yeux, nos oreilles, nos cœurs et nos mains, et nous pourrons dire, nous aussi, le Seigneur était présent en ce lieu, je le savais. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Venez le célébrer. Avec quelques extraits du psaume 146. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin, d'âge en âge le Seigneur régnera. Vous bondirez de joie.
Thank you. Nous avons la chance, de la chance, nous avons une grâce, celle d'accueillir alors un nouveau moniteur, alors un nouveau, discute parce qu'il y a quand même un an, c'est ça, que Thomas officie, mais il était plutôt, même s'il faisait tout le travail d'un moniteur, mais il était assistant, voilà, il était en phase de découverte. Et il a demandé à être reconnu à plein titre, et c'est pour nous une joie. Thomas Lemaire, je t'en prie. Alors, pour ce moment un peu solennel, j'invite les moniteurs qui travaillent avec lui. J'invite aussi tous ceux qui sont chargés de la catéchèse. Approchez-vous, oui, oui. Voilà. Alors, liturgie, m'aidez-vous, hein, je traduis en tu tout ça. Toi qui es appelé au ministère de moniteur de l'école biblique, tu annonceras joyeusement l'évangile auprès des enfants. Tu les aideras à grandir dans la foi en les initiant à l'adoration, à l'écoute de la parole, à la prière individuelle et collective. Tu exerceras ton ministère en collaboration avec les autres moniteurs et monitrices et les pasteurs, le pasteur, de ton église. Ensemble, vous chercherez à annoncer fidèlement l'évangile aujourd'hui. Est-ce bien là ce que tu veux ?
Oui, je le veux, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide.
Accomplis ta force dans la faiblesse de ton serviteur, dans sa vie comme dans ses dans son accompagnement des enfants. Donne-lui de mettre en relation constante l'Évangile et la vie quotidienne. Inspire-lui une parole claire et donne-lui l'humble assurance de celui que tu envoies. Mets en lui l'amour de ton Église et de son unité. Amen. Vous voulez quelques mots ?
Non. J'espère que tu seras un peu plus discret, les enfants, mais... Alors je vous invite à chanter. J'invite donc les enfants et leurs moniteurs à regagner leur lieu de travail, tandis que les autres peuvent s'asseoir. Dans le psaume 32, David parle du pouvoir de la parole dans la confession et de la libération du pardon. Écoutons-le. « Tant que je me taisais, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, nuit et jour, ta main sur moi pesait. Ma vigueur se desséchait comme au cœur de l'été. » Je t'ai avoué mon péché, je n'ai pas couvert mon forfait. Mes offenses, je les ai confessées. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Nous restons assis pour chanter « Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. » les trois premières strophes. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons être devant toi ce matin dans la vérité de notre humanité. Tu sais tout le poids de nos fautes, de nos manquements, de nos erreurs, de nos oublis. Tu connais nos lâchetés et nos paresses. Tu n'ignores rien de nos peurs et nos aigreurs. Tu vois ces fardeaux dont nous n'avons jamais parlé, que nous traînons et qui nous accablent. Dans l'intimité de notre cœur, nous voulons maintenant te dire notre misère et te déposer ce qui nous pèse. Me voici devant toi comme un pauvre, un mendiant. Mais me voici devant toi confiant, comme un enfant. Je n'ai pas peur, Seigneur, car tu es un Père qui nous libère. Tu pardonnes à qui s'abandonne. Jésus a dit : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est de ce repos-là que parlait David lorsqu'il disait au début du psaume : Heureux l'homme dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas la faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Que le pardon de Dieu soit ta forteresse, que le salut de Dieu soit ton unique richesse, que la joie de Dieu soit ton allégresse. Amen. Libre de nos chaînes, nous faut nous lever.
Thank you.
Prenez place. Deux lectures pour ce jour, l'une dans le livre de l'Exode et l'autre dans le livre des Actes. Mais avant, nous prions. Merci Seigneur pour la Bible. C'est le livre où tu nous apprends la vie. C'est la parole qui crée la liberté et la dignité. C'est l'histoire qui nous apprend la fidélité. Amen. Mélanie qui va nous lire.
Bonjour. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui, depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit : Que fais-tu là avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi, depuis le matin jusqu'au soir ? Moïse répondit à son beau-père : C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit : Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes, capables parmi tout Israël, et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse les affaires difficiles et il prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays.
Actes des Apôtres 6, versets 1 à 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent comme les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rend de qui l'on rende un bon témoignage, qu'il soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent leurs mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi.
Laudate Dominum. Prenez place. Il n'y a pas si longtemps, quelqu'un me disait « J'aime bien le livre des Actes des Apôtres, il me remonte le moral. » J'ai trahi ma perplexité. J'aurais dû, et je regrette de ne pas l'avoir fait, m'enquérir des causes de ce regain de morale, parce que j'en vois trois possibles. D'abord, on peut voir dans le livre des Actes une église modèle où tout se passe selon le plan de Dieu. Mais là, c'est qu'on n'a pas bien lu. Ou alors trop rapidement, trop superficiellement. Parce que malgré le rappel régulier que nous venons d'entendre de l'accroissement du nombre des fidèles, rien ne va dans cette première église. La seconde cause possible de ce regard moral, c'est être un peu mesquine, c'est de se dire ben, « la première église y fonctionne ». La mienne aussi, c'est pas si grave. On se sent moins seul, moins minable. C'est une pauvre consolation. La troisième raison pourrait, à mon sens, être positive. Le message de l'Évangile progresse malgré la faiblesse des églises et l'imperfection de ses membres. Ou l'inverse, hein, les imperfections des églises et la faiblesse des membres. Et le court extrait que nous venons d'entendre illustre assez bien ce propos, me semble-t-il. Alors, on peut remarquer que pour une église modèle, on se dispute beaucoup. Bon, ça c'est du sarcasme, j'abandonne. Tout ne va pas pour le mieux dans la première communauté, celle dirigée par les disciples eux-mêmes, par les apôtres eux-mêmes. Il y a des discriminations supposément xénophobes. La majorité opprimerait la minorité. Je mets un conditionnel parce que on ne sait pas si c'est vrai, si c'est un ressenti, impossible de le savoir. Et si cette discrimination existe, est-elle vraiment une forme de racisme ou juste, c'est juste que les veuves locales sont mieux repérées, donc mieux aidées? J'en sais rien, parce que, vous l'avez entendu, les disciples, les apôtres, n'ont pas le temps de s'occuper, de s'en occuper. Ils ont des choses plus importantes à faire et par conséquent, ils décrètent la formation d'une commission. Toute ressemblance avec des pratiques contemporaines, etc., etc. Bon, je suis un peu de mauvaise foi, je l'avoue. Les 12 ne peuvent pas s'occuper de tout. Et déléguer un peu ne saurait être une mauvaise idée. Moïse n'avait-il pas fait pareil lorsque son beau-père l'avait vu au bord du burn-out? On peut voir d'ailleurs un autre point commun entre ces deux récits. Dieu n'est pas à l'origine des créations de postes et ne manifeste aucun avis sur le sujet. Cela signifie peut-être que le Seigneur s'intéresse finalement assez peu aux questions d'organisation interne et que celles-ci relèvent avant tout de l'intelligence des humains. Richesse et risque de la liberté. On peut même penser que l'imposition des mains par les apôtres n'est pas un acte pour appeler l'Esprit de Dieu sur les sept, puisque le choix était basé notamment sur le critère que les candidats devaient déjà être remplis de l'Esprit-Saint. L'imposition des mains peut être comprise comme la transmission symbolique d'un pouvoir, d'une autorité, telle celle que le vieil Isaac transmet à celui qu'il croit être son fils aîné. Le problème, lorsqu'on transmet une partie de son autorité, c'est qu'il est difficile de ne transmettre que ce que l'on veut transmettre. Nous y reviendrons. Donc, tout se passe bien. Non. Non, pas vraiment. Ce n'est pas que l'initiative soit mauvaise. Au contraire, je pense qu'elle est excellente. Mais elle est réalisée à la va comme je te pousse. Pour de mauvaises raisons, d'abord, il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Les apôtres, dit ceci, et qui paysaient en les hiérarchisant, l'annonce de l'évangile du souci du prochain. Comme si les deux choses n'allaient pas de pair. On n'a pas le temps de s'occuper de la justice de notre communauté, on doit enseigner la parole de Dieu. J'imagine que vous voyez vous-même le problème que je n'ai pas besoin de développer outre. De mauvaises raisons donc. Et réaliser n'importe comment ? Oh, pas tout à fait n'importe comment. Les critères explicites sont bons. Sept d'entre vous des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Alors on peut regretter le côté strictement masculin de la chose, mais on va dire que c'est l'époque. Les critères sont bons, mais le choix final est surprenant. Étienne, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Là aussi, vous percevez le problème ? Je pense que la plupart d'entre vous se disent « Mais c'est qui tous ces gens ?» Vous avez raison. À part Étienne et Philippe, connus pour l'un pour son martyr en témoignant de Jésus et l'autre pour avoir baptisé un eunuque égyptien, donc pour toute autre chose que le service des tables, les autres sont d'illustres inconnus, ce qui n'est pas grave en soi. Après tout, parmi les 12, il y en a aussi des inconnus. Par exemple, Barthélemy, qui n'est pas le saint préféré des protestants. Mais Barthélemy, à part faire de la figuration dans des listes, ne joue pas un grand rôle dans les récits bibliques. Peut-être qu'il avait un grand rôle à l'époque, mais dans les récits, il ne fait pas grand-chose. Non, le problème, c'est que ce sont tous des noms grecs. Si on veut une commission capable de gérer les conflits, il vaut mieux qu'elle contienne des représentants de toutes les parties. Alors, il y a des notes de Tob qui évoquent le problème avec toute la subtilité nécessaire pour ne froisser personne. Ces sept noms sont tous grecs. Il est probable que les sept soient tous des hellénistes, responsables et défenseurs de leur groupe. Mais ce n'est pas indiscutable. Si les sept avaient surtout un rôle d'arbitrage, ils devaient compter dans les rangs des hellénistes et des hébreux. Ces derniers pouvaient, à l'occasion, avoir des noms ou des surnoms grecs. Vous la sentez, là, la tentative désespérée de sauvetage ? Il ne faudrait pas que les apôtres, des gens remplis d'esprit saint, donnent l'impression de faire des trucs brouillons. Mais être apôtre, et même avoir l'esprit saint, c'est-à-dire vivre pleinement la grâce et la proximité de Dieu, ne rend pas infaillible. L'infaillibilité n'est pas un dogme biblique. L'importance du groupe des apôtres, des 12, ne va cesser de décroître à partir de là. Comme pour nous signifier qu'on ne peut pas séparer la proclamation de la parole du service des tables. Et pour appuyer ce fait, les seules fois où l'on verra un membre du groupe des sept à l'œuvre, Philippe ou Étienne, c'est lorsqu'il proclamera l'Évangile. Il y a des réalités qu'on ne peut pas totalement séparer. Les membres des sept ont pris plus que leur part qui leur avait été confiée. Ils ont brouté sur le pré réservé des 12, mais eux non plus n'ont pas perduré. Pour être efficace, nous avons tendance à nous spécialiser, et c'est parfois une bonne chose. Mais c'est souvent, humainement, spirituellement, socialement, un désastre. Il est évident que personne ne peut tout faire et encore moins tout bien faire. parce que personne n'est doué en tout et surtout que personne n'a le temps et l'énergie de tout faire. Comme le rappelait d'ailleurs Jéthro à Moïse, « Tu t'épuiseras, toi, comme ce peuple qui est avec toi. » Et vous savez, le mythe de Charybde et Scylla, deux écueils à éviter, et si vous évitez l'un, vous vous précipitez sur l'autre, parle aussi de la foi, les deux dangers étant de vouloir tout faire ou de vouloir trop se spécialiser. Bien sûr, chacun, chacune d'entre nous a ses forces, ses centres d'intérêt et aussi ses carences et ses moindres attirances. Bien sûr, il vaut mieux que chacun s'investisse là où il est bon, où il sera bon, où il trouvera du plaisir et de l'intérêt. Mais à se limiter à cette perspective, notre Église finit par ressembler à une MJC dans laquelle toutes sortes de clubs, groupes et autres activités se côtoient et se croisent sans jamais se rencontrer, ni faire corps. Or, justement, l'Église, comme le rappelle l'apôtre Paul, est un corps. Si un corps ne peut que difficilement, voire pas du tout, se passer d'un organe, l'organe même le plus sain et le plus efficace ne sert à rien en dehors d'un corps et ne peut d'ailleurs pas vivre seul. Trop souvent, dans nos églises, il y a ceux qui s'occupent de la vie cultuelle d'un côté, ceux qui portent la diaconie de l'autre, ceux qui s'occupent des tâches matérielles dans un troisième coin, ceux qui s'intéressent à l'étude, ceux qui se préoccupent de la prière, ceux qui se soucient de la vie communautaire, ceux qui s'occupent de la catéchèse, et bien d'autres encore. Le défi de l'Église, ou plutôt le nôtre, est de réussir à tenir tout ça, sans se sentir obligé de tout faire, d'être partout et tout le temps. Les disciples et les apôtres sont toujours un exemple, mais parfois un exemple à ne pas suivre. Ou du moins à ne pas suivre en tout. Nous sommes des créatures complexes, nous ne pouvons pas vivre en étant trop spécialisés. Il faut parfois renoncer au dogme de l'efficacité. C'est cette obsession qui a mené à l'invention des ouvriers spécialisés, ceux dont la tâche était totalement spécifique, qu'ils passaient la journée à répéter le même geste. Un désastre humain. À tel point qu'ils ont pu sans peine se faire remplacer par des machines. La vie sous la grâce est une vie complète, pas un travail à la chaîne. Elle implique le corps, l'intelligence et l'esprit. Elle est charnelle, intellectuelle, spirituelle, personnelle et communautaire. On ne peut pas tout faire, certes, mais il n'est pas bon non plus de totalement négliger une part de ce tout. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Je vous invite à chanter « J'ai besoin de ta confiance ». restons debout pour la confession de foi et que je vous propose de dire ensemble. Je crois en Dieu qui chante et fait chanter la vie. Bonheur, amour et vie sont des chansons venant de lui. Il est un chant de source tout au fond de nos cœurs pour donner soif de gloire l'eau fraîche de la vraie vie. Je crois que Dieu est Père, il se dit en chantant. Il fait autour de nous chanter la création. Il invite chacun à faire chanter sa vie, mais nos vies chantent juste en s'accordant sur lui. Je crois en Jésus-Christ qui est chanson du Père. Je crois que l'Évangile nous chante son amour. Il fait chanter nos vies, même les plus mouvementées, et même nos échecs, la souffrance et la mort. Je crois en l'Esprit Saint, chant de brise et d'ouragan, qui accorde nos vies aux musiques de Dieu. Et je crois en l'Église, cœur multiple voix, qui chante pour les êtres humains le chant de la vie.
Et donc, nous chantons « Je crois et j'espère ». Prenez place. Voici le moment de l'offrande. Nous pouvons, par notre don, manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens.
Yeah.
quelques annonces, quelques nouvelles. Pierre, vas-tu?
Bonjour à chacun, merci d'être là ce matin. On m'a donné beaucoup de papiers, donc ça va peut-être être un petit peu long, mais... Voilà, donc d'abord des merci. Donc merci à Mélanie, Frédéric, Christophe qui vous attend à la sortie avec les nouvelles. Et puis merci à l'orchestre qui nous accompagne ce matin. Et bravo à vous.
Bravo.
Et puis je dis un dernier petit merci que j'ai oublié de dire dimanche dernier. Il y a 3 semaines en arrière, j'avais lancé un appel pour donner un coup de main pour faire les vitres, tout ça. Et on s'est retrouvé une équipe de 6 personnes. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Donc ce dimanche, c'est le culte des familles. Donc les enfants sont là présents jusqu'à 14h30. Donc si des enfants ne sont pas venus, que vous en connaissez, n'hésitez pas à les inviter. Et puis aussi une invitation à Pain, Parole et Partage, donc, qui se retrouve après le culte. Donc si vous êtes parents et que c'est un bon moyen d'attendre vos enfants avec d'autres parents et de faire un petit bout de chemin ensemble. Les rendez-vous de la semaine, lundi, c'est la rentrée du groupe A4. À ce sujet, il y a les appels du mois qui sont sur le présentoir. Vous pouvez les récupérer. Donc A4, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Mardi, à 19h15, il y a la chorale. Mercredi, nous nous retrouvons à 18h pour la prière. Je profite du mercredi pour dire qu'il y a une célébration au crématorium de la Balme à 14h pour Marcel Vezin. Je ne sais pas si vous la connaissez. Voilà, et dimanche prochain, il y a le culte à 10h. Dans les informations, peut-être certains ont remarqué que le site de la paroisse est inaccessible en ce moment. Donc il y a un problème technique, on est conscient de ce problème, on essaie de le résoudre. Pour l'instant, il n'est pas résolu, donc soyez patients, mais ça va revenir. J'en profite pour rappeler qu'au niveau de la presse, au niveau local, nous avons Nouvelles qui est à disposition à la fin du culte. Au niveau régional, c'est le journal Réveil, et au niveau national, c'est Réforme. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, un peu plus loin, donc, dimanche prochain, le conseil presbytéral sera réuni au chalet de la famille Schoendorfer. Donc merci à eux de nous prêter ce chalet fidèlement. Et par contre, ici, il y aura un culte, et à l'intérieur de ce culte, il y aura l'animation d'une chorale de Suisse. Comment elle s'appelle déjà, cette chorale ?
Le Colombier.
Le Colombier, merci. Merci, Christophe. La chorale Le Colombier de Neuchâtel.
Ça marche.
Voilà, Donc ça, c'est pour cette semaine. Des rendez-vous plus lointains, ça je l'ai dit. Mercredi 18 à 19h, il y a le film du jury œcuménique au Nemours. Et le film s'appelle Les graines de figuier sauvage.
Il y a un débat après.
Le samedi 21, il y a la brocante. Donc, simplement un rappel, donc cette brocante, elle est organisée au profit de l'Église. Donc, vous pouvez amener des affaires qui seront vendues au profit de l'Église. C'est Monique Piachot qui s'occupe de tout ça. Vous avez son numéro de téléphone dans Nouvelles. Et si vous voulez venir acheter ou venir donner un coup de main pour vendre, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le vendredi 20 à 18h30, il y a Bible en partage, donc le rendez-vous œcuménique, à partir de la Lectio Divina. Le samedi 21, il y a le premier culte de samedi. Qu'est-ce que j'ai comme annonce encore ? Il y a Anoa qui m'a confié un petit papier. Le groupe interreligieux du bassin annécien vous invite à son goûter de l'amitié dimanche 29 septembre à 15h30 à 17h30 dans le Jardin de l'Europe à Annecy. Et ça, c'est l'interreligieux. Et au niveau œcuménisme, il y a un pique-nique qui est proposé le dimanche d'avant, donc le 22.
Ouais.
Dans les
à midi,
à midi sur le paquet aussi, hein.
C'est ça.
Voilà. Le CERA nous propose une annonce aussi. Nous avons reporté à cause de la canicule en juin la sortie resto, car quelques personnes auraient été incommodées par la chaleur. Ça, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Cette sortie resto aura lieu le vendredi 27 septembre au Bistrot du Port à Sévrier. Inscription obligatoire, prix du repas 34€, plat, dessert, un verre de vin et un café. Et il me reste Laurette qui a une annonce à faire sur le sentier des Huguenots. Et si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le dire.
Aussi cette semaine, vendredi, conseil d'administration.
Conseil d'administration, ce vendredi, du CERA.
En fait, c'est une annonce qui vient de la paroisse de Savoie. Donc cette année, les journées du patrimoine sont consacrées au patrimoine des itinéraires et des réseaux et des connexions. Donc la paroisse de Chambéry, enfin de Savoie et notamment à Aix-les-Bains, a actualisé l'exposition qu'ils avaient fait il y a quelques années et qu'on avait accueillie ici. Et ils vont donc présenter cette exposition au temple d'Aix-les-Bains le samedi et 21 septembre et dimanche 22 septembre. À 15h, il y aura les deux journées un exposé, le samedi sur le sentier des Huguenots et le dimanche sur le sentier des Vaudois. Voilà, donc il y aura beaucoup de choses organisées à Annecy, mais si vous voulez pousser jusqu'à Aix-les-Bains, il y aura des informations. Je suis à votre disposition à la fin du culte si vous voulez plus d'informations.
Alors pour clore, trois nouvelles activités qui commenceront dès le mois prochain. Une prière le mardi à 7h du matin. Donc ce sera ici. Il y a un groupe de catéchisme pour adultes, de discussion, vous appelez ça comme vous voulez, par visioconférence une fois par mois, le jeudi soir à 20h, et une étude biblique un jeudi soir par mois aussi à 20h, mais en présentiel ici. Donc si vous êtes intéressé pour l'un ou l'autre, vous venez me voir et vous me le dites. Voilà. Je vous invite à la prière d'intercession. En ce jour de rentrée, nous voici devant toi pour te demander de conduire nos vies par ta parole, nos vies de parents et celles d'enfants, nos vies de jeunes et d'adultes. Nous te demandons de nous bénir sur cette étape nouvelle d'éducation chrétienne, cette série de rencontres que nous vivrons durant la saison. Que chacune d'entre elles soit comme une graine semée dans notre cœur. Que chacune de ces rencontres soit une occasion de te connaître. Nous savons que tu es un Dieu fidèle, présent auprès de chacun, mais nous ne savons pas toujours faire silence pour t'écouter et t'entendre au fond de nous-mêmes. Nous avons parfois de la peine à distinguer ta lumière dans le brouillard de nos doutes et dans nos questions. Alors nous te prions simplement d'être notre guide. Nous te remercions pour nos monitrices, nos catéchètes et toutes les personnes engagées activement dans notre paroisse.
et nous te prions d'être leur soutien. Nous te prions pour nous-mêmes. Donne-nous chaque jour un brin de confiance et une bonne dose d'émerveillement et de joie de vivre. Ainsi, unis dans le même esprit, nous pouvons te dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, sais-tu que tu es l'ami de Dieu ? Il te précède et t'accompagne. Dans ta peur, il est une danse. Dans ton désert, il est une espérance. Dans tes joies, il est sourire. Dans ton attente, il est le désir. Dans ta peine, il sèche tes larmes. Dans ton combat, il te désarme. Dans tes projets, il est chemin. Dans tes nuits, il est le matin. Je vous invite à vous lever. Que Dieu, notre Père, par sa présence et sa parole, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous fortifie et vous donne la paix. À lui soit le règne et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Evenu shalom alechem.
Dimanche à tous.